Vous êtes dans les promesses de l'aube. Il est 7h26. Nous retrouvons, comme tous les jeudis, les nouveaux panoramas qui remontent le temps et scandent votre matinée de poésie, d'histoire de l'art et de morceaux sans âge. Bientôt sur Panique, le vol sera à l'honneur. Le vol, certes, mais lequel, me direz-vous? S'agirait-il d'une suite de mouvements, d'ailes coordonnées, au moyen desquelles les oiseaux, comme les insectes, se soutiennent dans les airs et s'y déplacent? Serait-ce la distance qu'une perdrix peut parcourir sans se reposer? Ou le déplacement d'un objet léger dans l'air, le jeu des flocons dans l'azur, une plume qui virevolte entre les feuilles d'automne, des grains de poussière dans l'encablure d'une fenêtre, des choses invisibles qu'on ne saurait attraper. Le vol pourrait-il être une chasse faite avec des oiseaux de proie, une activité sportive se pratiquant avec une aile volante, ou un appareil qui descend au-dessus du théâtre et sert à faire apparaître des divinités? Où serait-il ce vol? Un aéronef qui se soutient et se déplace dans l'atmosphère. Ou plus simplement, le parcours fait avec un avion, ou une fusée, ou un tapis volant. Sémantiquement, le vol pourrait aussi être une abréviation de volatilité, l'indicateur mesurant l'instabilité du cours actif. Ou une abréviation astronomique de volant, le nom latin de la constellation du poisson volant. Les polysémies invitent à la malice, quand les chaînes sémantiques permettent de passer de synonyme en synonyme et d'un mot à son contraire pour opérer une distorsion du sens. S'il est vrai que l'opéra est également une pâtisserie, le rouge est aussi une colère, les clartés sont aussi de belles intelligibilités et les folies des éléments architecturaux inattendus. Et le vol dans tout ça, me direz-vous? Je m'intéresserai ce matin à celui qui a ma faveur, c'est-à-dire au tour de passe-passe, aux prestidigitations, aux soustractions, au barbotage, aux resquilles, aux rapines, aux larcins, au pillage, à la fauche dans tous ses états, tout ce qui ce matin donnera à voir et à entendre l'art de la kleptomanie portée au nu dans la peinture. Comme chaque jeudi, je vous propose une chronique qui se joue des mythologies, des chapeaux pointus, des pactes charnels conclus avec le démon, des illusions d'optique, des exceptions à la règle, des baguettes magiques, des princes transformés en grenouilles, des marginaux et des coupeurs de bourse. Un catalogue de matériaux qui interroge la vie moderne, sans tête de chapitre. Aujourd'hui, nous passerons à la moulinette ce qui fait actualité, effets et représentations collectives, enquête de perfection, d'amour et de sentiment, comme si quelques lettres bien trouvées permettaient de donner la clé de l'univers. En droit pénal, le vol est un délit. En art, c'est un sujet. Les deux connaissent une définition précise et répondent à une certaine réglementation. Entre 1475 et 1505, Jérôme Bosch réalise une huile sur bois, dessinée et désignée par quatre jolis noms. L'escamoteur, le jongleur, le bouffon ou encore le prestidigitateur. En 1978, le tableau est volé au musée de Saint-Germain-en-Laye par un commando du mouvement anarchiste Action Directe. L'escamoteur est escamoté. J'imagine Bosch au royaume des peintres d'où il regarde sans féliciter. Le destin même de l'œuvre se fond dans son sujet. Le décor est volontairement neutre. L'espace seulement délimité par un mur. Ne pas ancrer la scène dans un lieu précis permet au peintre de donner une vision intemporelle de la société. En isolant la scène de son environnement, Bosch lui confère ainsi une signification exemplaire. Il cherche à dénoncer la crédulité de ses contemporains, mettant en scène un prestidigitateur qui vient exécuter un tour. L'ordonnance du tableau est simple et claire. Peint sur deux planches de chêne assemblées horizontalement, l'escamoteur fait partie des premières scènes de genre. Sont figurées non des représentations mythologiques, religieuses ou historiques, mais des laïcs évoluant dans un univers quotidien. Des démons sont déjà ici et là, dans une apparition furtive sur la toile, sans pour autant encore régner en maître. L'escamoteur incarne le monde réel avec ses tromperies et ses artifices. Avec ses tours de passe-passe, il détourne les badauds de ce qui est important. Et le bourgeois, hypnotisé par le jeu, se fait subtiliser sa bourse par le complice du magicien. L'illusionniste ne dit pas ce qu'il fait et fait ce qu'il ne dit pas. Il joue avec les apparences et excelle à détourner l'attention du public. Et dans l'assistance, peu de personnages paraissent se rendre compte de la manipulation. Sinon, le compagnon de la jolie jeune femme, qui semble lui dévoiler le larcin. Mais le petit sourire de sous-entendu et les yeux au ciel de la jeune dame montrent que loin d'être scandalisée, elle reconnaît en l'escroquerie le train du monde. Faire diversion ou se faire attraper, telle est la question. Le bateleur exerce son pouvoir sur le personnage central sans le toucher, sans même lui parler. Sa bouche reste fermée, il travaille par le regard, le mauvais œil contamine l'air vicié enveloppe la victime et provoque une transformation néfaste dans son corps. On rêve alors formules magiques et incantations, malédictions et autres sortilèges abjects. Et la terreur de la sorcellerie tourne alors au délire collectif. Des animaux symboliques véhiculent un message de manière détournée. La chouette, placée dans le panier du magicien, est tant l'oiseau de la sagesse que celui des ténèbres, volant la nuit en même temps que les sorcières. Bosch la représente dans plusieurs tableaux, et notamment dans l'arbre qui figure dans la nef des fous. L'oiseau, attaché à la taille de l'escamoteur, symbolise donc son intelligence, mais une intelligence diabolique. Deux grenouilles figurent aussi sur ce tableau. L'une est sur la table de jeu alors que l'autre sort de la bouche du personnage central. Symboliquement, la victime lâche prise avec la raison et cède à ses impulsions animales. Les crapauds, animaux vivants et coassants dans la vase, évoque irrésistiblement le diable et les hérétiques. Il est en outre une référence claire à l'alchimie, représentant la matière première dont il fallait dissocier l'élément volatile par distillation. Les livres abondaient en illustrations qui, sous forme de cryptogrammes et de dessins, expliquaient les opérations magiques et les intentions de ses adeptes. Les alchimistes cherchaient à ennoblir l'homme comme la matière. Pour y parvenir, ils mariaient les éléments contraires. Des couples copulant dans les corps nus, l'union du soleil et de la lune, le cercle fondu dans le croissant. Et en parlant de croissant, alors que certains d'entre vous petits déjeunent, nous pourrions tout aussi bien parler de ciel. Et à partir de ce dernier, nous reviendrions sans effort se poser sur les trois petites lettres du vol. Les associations d'idées sont bien faites et pratiques pour trouver une chute à cette chronique. Une chute littéraire assurément, et un encouragement à lire ou relire Saint-Exupéry et son merveilleux vol de lui, qui retrace les débuts de l'aviation commerciale. Son témoignage sur la vie des pilotes de ligne est dépouillé. Il retrace une expérience vécue, montre comment ses camarades aviateurs étaient prêts à renoncer à tout ce qui les touchait individuellement, pour défendre une cause qui leur semblait légitime. Saint-Exupéry y définit deux types d'hommes, le chef qui forge des volontés et le sujet qui exécute les ordres, en acceptant les risques que comporte le métier. Ainsi, quel que soit l'angle du vol abordé, de Bosch à Saint-Ex, la morale est toujours la même. L'homme ne donne de valeur à l'humanité que par l'effet de ses actions. C'était les Nouveaux Panoramas, nous sommes toujours sur Radio Panique. Il est 7h36, belle journée, à la semaine prochaine.